Bonjour, vous écoutez l'épisode 26 du podcast Les Petits Plus Zen. Je suis Séverine Feiss, j'ai été enseignante pendant 22 ans en REP+, et maintenant je vous aide sur votre chemin de parent pour découvrir les besoins des tout-petits, les arcs-en-ciel de besoins de chacun, les cheminées des émotions de chacun, et d'installer des temps de qualité en famille, des tequils, pour retrouver vraiment la joie de grandir tous ensemble. On va parler aujourd'hui des doudous. Tous ces objets transitionnels que les enfants utilisent pour se rassurer, pour montrer l'attachement et, avant de grandir, cette petite transition entre le stade de bébé et le stade d'enfant autonome. Les doudous, c'est un thème incontournable des crèches, incontournable des maternelles. On a vu beaucoup de changements, évidemment, sur 20 ans en REP+, concernant les doudous. Au tout début, quand j'ai commencé les petites sections, tous les enfants avaient des doudous. Ils les ramenaient en classe. C'était parfois le même doudou pour la classe et pour la maison. Donc c'était parfois un peu difficile de vraiment coordonner la logistique parce que chaque soir, il fallait bien penser à remettre le doudou dans le sac, sinon ça faisait des drames. Et puis au fil du temps, on a vu qu'il y avait de moins en moins de doudous en classe. Il y avait parfois plus de tétines que de doudous. Et puis parfois des enfants qui n'avaient ni doudou ni tétine. Et donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Donc le doudou, ça vous savez sans doute que c'est un signe d'attachement que l'enfant projette sur cet objet, sur ce doudou. Ça peut être une couverture, ça peut être une peluche, ça peut être une petite étoile en mousse, ça peut être un foulard de maman. Donc quel que soit l'objet, c'est un objet de transition entre son monde de la maison et le monde extérieur. Quand j'ai fait mon mémoire sur le jeu en fin d'études d'enseignante, j'ai travaillé sur un ouvrage de Winnicott. Donc c'était un psychiatre qui s'appelait Donald Winnicott. C'était le premier Donald humain que je lisais et qui a fait donc tout un livre sur les objets transitionnels qui montre en fait la présence de l'autre dans son absence. Ça veut dire que quand la maman est absente, l'enfant met une certaine présence de cette mère absente dans un objet. Donc dans ce doudou, il emporte en fait de façon symbolique toute la sécurité de la maison, de son lit, de sa famille, de son papa, de sa maman, de ses frères et sœurs. Toute la douceur et la sécurité de la rayure rouge, elle est contenue dans ce petit objet qu'il a choisi. Alors parfois, il l'a choisi vraiment de façon autonome, puis parfois, on lui a vraiment proposé de façon plus ou moins insistante que ce soit son doudou, mais finalement, l'enfant, il est appelé en fait par cet objet, par ce doudou, c'est lui qui va l'étiqueter, c'est lui qui va le valider, l'élire au rang de doudou important. Vous avez peut-être essayé de changer le doudou de votre enfant, ça ne marche pas bien. C'est l'enfant qui, en dernier recours, verra quel est son doudou d'attachement le plus fort. Peut-être parce qu'il a des oreilles, peut-être parce qu'il fait de la musique, peut-être parce qu'il a une grande queue. Dans la tête et l'imaginaire de l'enfant, c'est son choix. L'important, c'est le symbole qu'il va y associer et la place de ce doudou dans sa vie. Ça comble, du coup, le vide de la maman, de l'absence de la maman ou du papa. Quand il est gardé en crèche ou à l'assistante maternelle, c'est le seul objet en fait qui le rappelle qu'il a une vie en dehors de ce lieu. Il a une vie en dehors de la crèche, il a une vie en dehors de l'école. Et c'est donc un objet de substitution. Sa zone de confort s'organise autour de ce doudou. Et si vous observez des enfants très jeunes, la première semaine quand on a le dispositif des moins de 3 ans, ce doudou, il ne peut pas le poser, il ne peut pas le mettre à un endroit où il ne le voit plus. Ce serait comme une sorte de mort, ce serait comme une sorte de vraiment souffrance impressionnante de poser, de lâcher son doudou. Même pour mettre les manches du manteau, c'est parfois un combat de lui faire enlever ce doudou. Alors dans un sens, c'est plutôt un bon signe, ça veut dire qu'il a vraiment associé ce doudou à une sécurité. Mais dans un autre sens, on sait, nous encadrants en tant qu'adultes, qu'il va falloir beaucoup de patience et beaucoup de langage, de verbalisation, de confiance, hein, pour apprivoiser l'enfant qui pense que toute sa vie se résume à ce seul objet, à ce seul doudou. Vous voyez l'enjeu qui se pose là. Si l'adulte référent pour l'enfant, donc en dehors de sa figure d'attachement, là je vais dire la maîtresse ou la responsable de crèche, si la maîtresse arrachait le doudou des mains, c'est comme si la maîtresse arrachait la maman absente de son enfant. Donc, est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous l'implication et l'enjeu que ça pourrait être pour un jeune enfant à qui on dirait « lâche ce doudou, pose ce doudou, mets ton doudou dans ton lit ». Donc, on parle là des presque la moitié maintenant. La moitié des enfants qui ont un doudou ont conçu inconsciemment une forme de symbolique comme quoi c'est leur maman qui est dans ce doudou. Donc si un autre enfant touche ce doudou, c'est comme si un autre enfant voulait l'amour de sa maman. Si un autre enfant fait mal à ce doudou, le pousse, le fait tomber, c'est comme si on s'en prenait personnellement à lui-même. Donc là, vous comprenez mieux les enjeux qui peuvent découler de toute cette notion-là, notamment les crises de colère, les crises de pleurs, les crises d'opposition. Quand un enfant touchait le doudou d'un autre, ça provoquait une bagarre immédiate. Soit l'un des deux se mettait à taper, à mordre, à tirer les cheveux ou à se rouler par terre, à se taper la tête sur les murs et tout. Le déclencheur pouvait être simplement avoir touché le doudou de l'autre. Donc vous voyez à quel point cet objet symbolique qui pourtant n'est juste qu'une peluche ou qu'une couverture ou qu'un morceau de mousse peut engendrer un drame émotionnel, symbolique, vraiment d'un enjeu de vie ou de mort pour un enfant entre 2 et 4 ans. Donc une fois passée cette première présentation, ça peut aussi être un élément qui va montrer à quel point il commence à être autonome, libre et à se détacher de la fusion avec ses parents. Quand l'enfant est capable de partager le doudou, de le poser ou même de l'oublier à la maison un jour en allant à l'école, vous voyez à quel point le chemin dans sa tête de défusion du fait d'autonomiser sa propre vie en dehors de ses parents est un marqueur très sérieux sur sa capacité à lâcher son doudou. En début d'année, les enfants collés à leur doudou sont une réalité. À la fin de l'année, il y a très peu d'enfants qui quittaient le dispositif en étant encore collés à leur doudou, non seulement parce qu'ils avaient dépassé cette étape de la séparation de l'adulte, mais qu'ils avaient aussi renforcé leur rayure jaune d'identité et leur rayure verte d'autonomie. Et pour moi, comme bien souvent, ça va de concert tout ça. C'est en travaillant la confiance avec la figure d'attachement de l'école, en travaillant l'autonomie physique et intellectuelle de l'enfant, en travaillant sa singularité et son identité, en le renforçant dans sa capacité à faire des choses tout seul et à voir à quel point il est fort, créatif et autonome, que tout ça va mener au détachement progressif de ce doudou, de cette tétine, parce qu'il se sent grandir, parce qu'il se sent en pouvoir et qu'il se sent de plus en plus fort pour se dire finalement ce doudou, je n'en ai plus besoin. Ce doudou n'est plus matérialisé par cet objet. Si je veux penser à maman, je sais qu'elle est dans mon cœur, dans ma tête, suivant ce que vous lui dites à votre enfant. Mais en tout cas, il n'a plus besoin de cet objet comme totem, comme talisman, pour se protéger d'un danger immédiat, comme si c'était vraiment une barrière contre les ours ou les lions. Au début, il pense que ce doudou va l'empêcher d'être attaqué de qui que ce soit. Donc, il y a toute une méprise quand on choisit un doudou pour un enfant, de ne pas voir à quel point ce doudou n'est pas la solution à tout, mais ce doudou peut être vraiment une figure importante pour sa vie intérieure, pour sa vie personnelle. Et d'ailleurs, nous, on rentre dans ce jeu-là à l'école en prenant la double identité du doudou. Ce doudou, à la fois, c'est toujours le doudou de cet enfant. Donc, quand on ramasse un doudou qui traîne, on le remet systématiquement près du porte-manteau de l'enfant. On sait qu'il est affilié à cet enfant. Et d'ailleurs, les enfants, très vite dans le dispositif, connaissent les doudous de tout le monde. Donc, quand il y avait le poisson qui traînait, on savait que c'était le poisson de tel enfant. Quand il y avait la couverture, on savait que c'était la couverture de tel enfant. Ils ont associé le doudou à chaque enfant et l'idée de propriété était très bien maîtrisée au bout de 2 mois. Chaque enfant savait que cet objet était la propriété de cet enfant. Donc ça, c'est tout un tas de petites étapes qui sont très importantes pour la vie en commun, pour la vie en société, pour le respect de l'autre, pour l'empathie. Parce qu'on pouvait très bien expliquer que quand on touchait le doudou de quelqu'un, ça pouvait le rendre triste parce qu'il ne savait pas si on allait lui redonner. Donc de développer cette empathie entre les enfants, de dire quand tu prends le poisson, lui, il se sent triste parce qu'il pense que tu ne vas pas lui redonner. Il pense que tu vas le garder pour toi. Il pense que tu vas l'emmener. Et ça le rend triste. Et donc là, on travaille aussi la cheminée des émotions, la tristesse, la colère, l'accueil de chaque ressenti de chaque enfant. Donc le doudou nous sert de support didactique, de support d'activité. Ça peut aussi être un doudou confident pour nous. Ça veut dire qu'on va aller parler dans l'oreille du doudou pour attiser la curiosité de l'enfant. L'enfant va vouloir savoir ce qu'on lui a dit parce que pour lui, ce doudou, il est presque vivant. Donc on va pouvoir intégrer à notre pédagogie, à notre activité, la place des doudous dans la classe. Et plusieurs années dans le dispositif, j'ai proposé aux parents de ramener un doudou qui servirait presque de membre de la classe à temps complet, parce qu'après, on faisait des activités avec les doudous, on les comptait, on les triait par couleur, par taille, par catégorie. On les mettait à manger sur la table de la dinette, on les mettait à coucher dans les lits. Donc on utilisait les doudous à la fois pour les détacher des enfants et à la fois pour se rendre compte que finalement, au fond du fond, c'est juste un objet. Donc vous voyez, d'enlever le côté sacré et individuel de chaque doudou, mais petit à petit, sur le long terme. Parce qu'on est dans une symbolique qui est vraiment intérieure et émotionnelle. Donc pour certains enfants, ça allait vite. Et pour d'autres, c'était beaucoup plus dur à installer ce détachement symbolique du doudou. Et puis pour certains enfants, vous l'avez peut-être observé chez vous, le doudou, c'est celui aussi qui prend quand l'enfant est frustré, quand l'enfant est en colère, il balance le doudou, il tape le doudou et tout ça. C'est une manière de retourner sur le doudou ce qu'il ne peut pas faire sur son petit frère, ce qu'il ne peut pas faire sur son copain de classe. Et c'est une sorte de double un peu maléfique, le doudou, qui permet d'extérioriser les émotions de l'enfant ou de l'élève à ce moment-là. Donc le doudou a toute sa place dans la symbolique de sa façon de grandir et de comprendre les interactions sociales. Évidemment, taper sur le doudou est mieux accepté que de taper sur sa petite sœur ou de taper sur son copain de classe. Néanmoins, quand on voit que la décharge physique est finie, on peut aussi interroger ce geste, soit avec lui, soit nous-mêmes, en tant qu'adulte ou en tant que parent, pour se dire il a un tel besoin de violence sur son doudou, peut-être que ça cache un besoin de réconfort, de soutien. Est-ce qu'il serait jaloux de cette petite sœur? Est-ce qu'il pense qu'on s'occupe moins que de cet élève-là? Donc c'est toujours un indice de voir que ce qu'il fait sur son doudou peut nous donner une information sur son ressenti, sur une des rayures de son arc-en-ciel qui peut-être est en train de clignoter et qu'on pourrait éventuellement nourrir, soit avec lui directement l'individuel, soit par une activité de groupe ou de famille. À vous de voir, mais ça interroge le ressenti par le doudou. Le doudou devient un support pour nous de voir ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Et ce doudou, il peut être intégré très vite au rituel aussi de la famille ou de la classe, pour essayer à travers le doudou de communiquer avec l'enfant. Vous avez peut-être essayé une fois de donner le sirop au doudou pour faire comprendre que ça fait pas peur, ça fait pas mal, ou de regarder avec le stéthoscope vous savez, la petite lumière là, qu'on met dans les oreilles pour les enfants chez le docteur. Bah, certains docteurs vont le faire d'abord sur le doudou pour montrer que ça fait pas mal et ensuite sur l'enfant. Tout ça, ce sont des gestes préparatoires, c'est des gestes en fait de visualisation pour que l'enfant se rassure et pour que l'enfant se sente moins en danger, se sente moins victime ou se sente moins aussi pris au piège d'une chose qu'il ne connaît pas, donc mis devant le fait accompli, en passant par cet objet transitionnel, en passant par le doudou, l'enfant met un peu à distance ses craintes, ses doutes et ses peurs. C'est pas magique, mais c'est des voies qui sont quand même assez faciles à mettre en place pour une maîtresse, assez faciles à mettre en place pour une maman. Quand on dit au doudou, hey, doudou, t'es en train de bâiller, t'es fatigué, je crois que c'est l'heure de se coucher, l'enfant va entendre tout ça, il sait qu'on ne lui parle pas à lui, mais quand on lui redira à lui, il l'aura déjà entendu, ce sera moins frontal, ce sera moins une surprise et ça pourrait passer mieux. Donc je vois vraiment ça comme une porte d'accès vers l'enfant, de passer aussi par le doudou. Donc à voir si ça marche pour vous ou pas. En classe, c'est quelque chose que j'utilisais très régulièrement et je pense notamment à la visite de la dentiste. J'avais pris certaines poupées, certains doudous pour expliquer ce que la dentiste allait faire avec les élèves ou alors pour préparer la photo de classe. Une fois, j'avais mis tous les doudous les uns à côté des autres pour faire comme le photographe allait faire avec les enfants. Donc de mettre en scène les doudous pour que les enfants comprennent mieux ce qui va leur arriver, ce qui va se passer pour eux-mêmes. De faire comme deux étages, ce qui se passe pour les doudous. Ah, j'ai compris sur le doudou, donc après je vais comprendre ce qui va se passer pour moi. Les doudous permettaient aussi de travailler, bah bien sûr, hein, les activités topologiques. Donc topologique, c'est le repérage dans l'espace. On a notamment en fin de grande section une épreuve à pointer hein, sur les tests qui sont nationaux sur est-ce que tu peux me montrer l'objet qui est devant, qui est derrière, qui est entre, qui est sur le côté, qui est dessous, et de se dire tout ça c'est possible uniquement si l'enfant a compris ces notions et le fait de le faire en pratique avec des doudous, ça lui permet vraiment de voir comment ça fonctionne exactement. Et dans ces cas-là, le doudou peut évidemment dédramatiser un peu les situations, mettre un peu de légèreté, mettre un peu d'humour et de faire une sorte de diversion en disant « Ah bah viens, on va aller faire la valise, qu'est-ce qu'on met dans la valise ? Est-ce qu'on met la lampe ? Est-ce qu'on met la chaise ?» Et de faire rigoler en fait l'enfant et de le faire passer à autre chose assez régulièrement. En classe, on avait besoin de faire des petites diversions comme ça pour désamorcer les crises qu'on avait identifiées comme naissantes. Donc, passer par les doudous est une manière aussi de faire sourire les enfants et de les faire revenir à quelque chose d'un peu plus collectif et un peu moins individuel pour le coup de « moi je veux ça, moi je veux ci » que vous avez sans doute aussi à la maison. Et en classe, on utilisait aussi les doudous collectif dans le sens où quand les enfants n'étaient pas prêts à partager leur propre doudou pour un thème ou pour une activité, j'avais dans mon carton, dans ma classe et dans mon bac à doudous, des doudous qui pouvaient s'apparenter aussi à un thème qu'on allait travailler. Donc la chanson des petits poissons dans l'eau, au début, comme c'est la première comptine qu'on apprend, petit clin d'œil à l'épisode 24, j'avais dans ma classe une dizaine de petits poissons en peluche que les enfants pouvaient aller chercher pour faire nager le poisson en peluche. Et ce poisson, du coup, devenait le support de la comptine, le support du texte pour les enfants qui n'arrivaient pas encore à prononcer, qui n'avaient pas encore envie de parler. C'était ce doudou de la classe qui montrait leur implication dans l'activité. L'enfant, en prenant le doudou du bac à doudou, en prenant le poisson du bac à doudou et en faisant nager le poisson, me montrait et se montrait à lui qu'il avait compris qu'on était dans la comptine des petits poissons. Donc c'était une manière de s'exprimer indirectement par les gestes, par le choix du doudou, et de mettre à disposition des doudous dans la classe a toujours été une grande richesse, je trouve, pour le dispositif, parce que les enfants allaient chercher par exemple le serpent et puis allaient embêter un enfant en lui mettant le serpent à côté de l'oreille, et ça montrait son envie de jouer, ça montrait son envie d'embêter un peu les autres, et on en rigolait beaucoup puisque il se servait lui-même d'un objet pour ne pas assumer en fait de vouloir asticoter les autres ou vouloir entrer en interaction avec un autre enfant. Donc une fois de plus, ce sont des supports qui permettent aux élèves de s'exprimer indirectement et de montrer qu'ils ont envie d'eux ou qu'ils n'ont pas envie d'eux. Les enfants qui voulaient se mettre dans la cachette avec les doudous de la classe pouvaient très bien s'isoler quelques minutes et faire un câlin à doudou, le leur ou celui de la classe. Et ça montrait, j'ai besoin d'un temps pour moi, laissez-moi tranquille pendant un moment. Donc c'est vraiment une grande variété et un grand support didactique. Si vous avez des doudous à la maison, si vous avez l'intention de les vendre ou de les jeter, peut-être interrogez-vous sur toute la portée que vous pouvez encore en faire. Notamment si vous comptez faire l'instruction en famille, gardez les doudous parce que ces doudous-là, ils peuvent servir d'activités de comptage, de numération, de topologie. Ils peuvent faire une activité d'écriture aussi. On peut les décrire, on peut dire ce qui leur arrive, on peut raconter qui nous l'a offert. C'est vraiment des supports très riches et pour le coup, ce sont des objets qui ont vécu avec l'enfant. Ce sont des objets qu'il a toujours vus dans sa chambre ou dans son salon. Et donc, il a un lien affectif avec ces objets. Il a une histoire avec ces objets et ça fait partie en fait un petit peu de son identité d'enfant. Et donc ces objets-là, je vous invite à, avant de les vendre ou avant de les donner à quelqu'un d'autre, de voir à quel point votre enfant est d'accord en fait pour les donner, pour les vendre. Je vous reparlerai du coin don un autre jour, mais quand j'ai installé le coin don, des fois j'emmenais des choses que ma fille voyait au coin don et qu'elle disait « mais non, je ne suis pas d'accord pour que tu donnes ça, moi j'y tiens et... » Et donc, l'enfant peut tenir à des objets ou à des doudous qui, pour nous, ne paraissent pas très importants, mais qui, pour eux, ont un sens, une histoire, une cohérence, peut-être vraiment un souvenir qui est lié à cet objet. Donc, garder une partie des doudous, soit pour des activités périscolaires, soit pour des symboles affectifs de vos enfants. Bon, il ne s'agit peut-être pas de tout garder, hein. Je comprends votre besoin de faire de la place. J'ai un peu le même à la maison. Mais de se dire, ça peut être vraiment un support très intéressant, le doudou. Et puisqu'on en est dans les doudous qui traînent un peu partout, j'avais une petite fille qui avait une couverture et qui vraiment, pour le coup, elle la traînait dans les supermarchés, elle la traînait dans son lit, elle la traînait dans la classe, elle la traînait dans la cour. Et la couverture était dans un état assez dramatique au niveau odeur, au niveau couleur et tout. Et j'ai quand même essayé plusieurs fois de demander à la maman si elle n'avait pas un autre exemplaire à la maison qui pouvait être comparable et qui pourrait permettre la transition pour que le doudou soit lavé une fois de temps en temps. Et elle dit « Ah non, mais dès que je lui enlève de la main, elle se met à hurler, elle se met à se rouler par terre. » Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même une information assez précise que cet objet représente un talisman et quelque chose à interroger dans la vie de l'enfant s'il n'arrive même pas à supporter l'idée que le doudou aille dans la machine à laver. Moi, une fois, j'avais mis la petite devant la machine à laver, elle a regardé son doudou tourner et quand le doudou est sorti, elle a touché. Le doudou était mouillé, elle a dit « bon d'accord, on va attendre qu'il soit sec ». Et voilà, pendant que le doudou séchait, elle est repartie jouer. Mais ça fait partie du cycle aussi de compréhension qu'un objet peut être sale, un objet à traîner dans la boue, un objet à... Voilà, prenons tous les supports vraiment du quotidien pour montrer aux enfants que nos actions ont un sens. L'état de ton doudou a vraiment besoin que je le mette à la machine à laver. Oui, quand il va sortir de la machine à laver, bah, il ne sentira plus tout à fait pareil. Mais voilà, tu lui remettras ton odeur, après on remettra l'odeur du lit, l'odeur du parfum de maman. Mais à un moment, il y a quand même un côté un peu hygiénique. Et puisqu'on est dans les zones santé microbes, je vous parle aussi des tétines, parce qu'on a eu certaines années un peu difficiles avec les tétines à l'école, où les enfants laissaient traîner la tétine absolument partout, et il y avait un bac à tétines dans la classe. Et Je trouvais ça compliqué, donc j'avais fini par mettre les petites poches individuelles IKEA. C'était vendu par 12, il y avait 12 petites poches. Donc chaque enfant avait une poche pour mettre éventuellement son album photo, sa tétine et son doudou. Parce que mettre les tétines ensemble, les bains de tétine et de microbes, à un moment, on peut quand même penser à la santé des enfants et à l'articulation aussi. On peut en parler là, puisque c'est l'occasion de dire les enfants qui mâchouillent les oreilles du doudou ou les enfants qui mâchouillent la tétine, ça montre aussi un petit stress et un besoin de succion et un besoin d'action vraiment des mâchoires qui peut être à force déformant et à force être un frein à la bonne articulation et à la bonne mastication même des aliments, puisque certains des élèves qui mâchouillaient toute la journée leur doudou avaient pour le coup un petit problème aussi d'alimentation et alors, je ne vais pas dire déglutition, mais plutôt de force des mâchoires qui étaient un peu en porte-à-faux avec l'alimentation à la maison. Donc voilà, vigilance quand même sur l'utilisation du doudou au niveau de la bouche. Est-ce qu'il est sucé? Est-ce qu'il est traîné? Est-ce qu'il est mâchouillé? À voir avec éventuellement votre référent de santé. Je relis là sur ma feuille à quel point les doudous peuvent apporter un peu d'humour aussi. Restez vigilant sur la façon de critiquer le doudou de l'enfant, parce que comme le doudou de l'enfant, c'est quand même une partie de lui en miroir et que c'est quand même très lié à son estime de lui, critiquer le doudou peut pour lui être une façon de le critiquer lui. Donc, dans notre façon de nous exprimer avec les élèves et avec les enfants, c'est difficile pour un jeune enfant de ne pas le prendre personnellement quand on lui dit « Ah, ton doudou, il est sale, ton doudou, il est pas très beau, il a perdu un œil et tout. » Tout ça peut, par sensibilité en fait, être un peu difficile à entendre pour les enfants et les élèves, puisque ce doudou n'est pas encore complètement défusionné de sa personnalité à lui. Il peut croire qu'en critiquant le doudou, d'une certaine façon, c'est aussi lui qu'on critique. Donc l'humour, vous savez, hein, c'est toujours à manier avec délicatesse et sensibilité. Et quand là, il s'agit d'un élément qui est vraiment fondateur de l'attachement et de la sécurité de l'enfant, on peut utiliser le doudou dans des actions pédagogiques, dans des activités et dans des rituels à la maison, dans des routines, mais peut-être pas dans de l'humour un petit peu décalé, sarcastique, que l'enfant n'est pas encore en mesure de comprendre. Entre 2 et 5 ans, il n'a pas le même humour que nous. Et je pense à ça notamment quand on va en famille et que ce sont les membres de la famille qui peuvent critiquer en disant « Ah, oh, t'as encore la tétine, t'as encore le doudou, t'es un bébé et tout. » Tous ces mots qu'on pose sur l'enfant par rapport à un doudou ou une tétine ne sont peut-être pas représentatifs du stade de développement où il en est actuellement et que le contexte peut vraiment jouer quand on est dans une réunion de famille où on a fait la route, où on est fatigué, où on ne connaît pas les lieux, on ne connaît pas les gens. Eh bien, une tétine et un doudou, ben, c'est très rassurant. Et justement, c'est le moment de dire, ah, ben, t'es content, t'as ramené ton petit doudou, ça te fait du bien d'être avec lui, il est tout doux, il te caresse la joue. De valider en fait le choix de l'enfant dans ce contexte-là, dans ce moment-là, de se dire, s'il a besoin de son doudou, s'il a besoin de sa tétine, c'est qu'à ce moment-là, ça nourrit son besoin de réconfort, ça nourrit son besoin de sécurité et d'attachement, parce que le contexte ne lui paraît pas être si familier et ne lui paraît pas être si bienveillant quelque part ou rassurant. Donc laissons-leur le temps de lâcher eux-mêmes la tétine et le doudou. Comme je vous disais, on a à la fin de l'année du dispositif, sur les 15 élèves, quasiment 13 élèves avaient lâché leur doudou et au moins 10 avaient lâché la tétine. Parce que la tétine, ça empêche de bien parler et comme on valorise beaucoup, beaucoup la conversation, la façon de parler, d'articuler, comme je vous disais dans l'épisode 19, la tétine, à un moment, est vraiment reléguée au lit, finalement. On n'utilise la tétine que dans le lit parce que tout le reste, on peut s'exprimer, on peut parler, on peut communiquer pour dire ce qui ne va pas. Et la tétine reste un réconfort pour s'endormir éventuellement. Et encore, il y a des enfants qui avaient lâché la tétine dès Noël parce qu'ils avaient vu qu'ils sont grands, ils sont forts, ils grandissent. Vraiment, j'avais beaucoup accentué avec mon ATSEM sur la rayure jaune et verte. Donc l'enfant qui se sent en pleine puissance et qui se sent compétent, qui se sent grandir et qui se sent validé dans ses acquisitions, dans son développement, lâche de lui-même la tétine et lâche de lui-même le doudou. Il trouve d'autres sources de réconfort et de soutien, notamment dans l'amitié, notamment dans les personnes de confiance, et il n'a plus besoin d'un objet extérieur pour se valoriser. Mais puisqu'on en est sur ce thème-là, vous voyez que certains adultes ont encore des objets qui les rassurent et qui leur permettent de se créer des petits moments de talisman et de routine qui les rassurent eux-mêmes. Alors pour certains adultes, hein, ça peut être des objets technologiques ou ça peut être aussi des choses qui sont dans le sac tout le temps à portée de main ou... voire les cigarettes, voire ce sont des objets qui ont les mêmes fonctions, les fonctions de divertir, de rassurer, de détourner l'attention, de se réconforter. Est-ce la bonne méthode ? Libre à vous de choisir, hein, la stratégie qui nourrira vos propres rayures de besoin. En tout cas, l'enfant, lui, s'en tient à ce qu'on lui propose, hein, à la naissance, à savoir des objets autour de lui, des doudous autour de lui. Comme il ne peut pas emmener le sein de maman partout ou les bras de papa partout, il s'en tient à un objet extérieur et parfois on continue cette habitude à l'âge adulte. Voilà tout mon thème sur les doudous et mon vécu de 20 ans de maternelle. Si vous avez des questions sur ce thème, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Clubhouse si vous y êtes. On démarre très vite le cercle parentalité de décembre. Donc démarrage le 30 novembre avec vous si vous êtes motivé. C'est un cercle de parents qui sera en ligne, en visio, sur 5 mardis. C'est complètement ouvert et adapté à des parents d'enfants de tous les âges qui n'ont pas besoin d'être professionnels de l'enseignement ou de la petite enfance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et si surtout les contenus que je vous partage à la fois sur le podcast et sur les réseaux sociaux vous parle en fait, si mon contenu vous fait déjà vibrer, n'hésitez pas à rejoindre ce cercle-là. Les places sont limitées à 25. Là, comme j'enregistre 2 semaines avant, je ne sais pas s'il reste des places, mais je vous souhaite qu'il reste des places pour que vous puissiez vous inscrire. Inscrivez-vous sur Instagram, directement en message privé ou par mail à lppzen@gmail.com. C'est en participation consciente. Donc la participation consciente, ça veut dire que à la fin du cycle de 5 séances, si ça vous a plu, vous pourrez faire un don de votre choix, le montant de votre choix. Il n'y a pas de tarif. Si ça vous apporte du bien, c'est ce qui me va à moi. Moi, mon besoin, c'est de transmettre et de contribuer à la sérénité en famille de tout le monde. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dans ce cercle-là. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis bon courage avec les enfants et plein de tequila à vous. Au revoir.